Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, nous sommes le jeudi 9 avril 2015 et il est l'heure du Canu Info. Nous allons vous parler avec Laurent de plein de choses ce soir, de grève, beaucoup de mouvements sociaux. On vous parlera aussi de quelques profiteurs, par exemple de HSBC. Nous parlerons Torrent, nous parlerons aussi flics racistes. Et assassin, on parlera de pollution de l'air. Hein, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle, et ben on va recommencer. On parlera 100% renouvelable. On parlera de l'ADEME en l'occurrence. On parlera de la grande barrière de corail, des banques françaises, et puis une belle page nucléaire ce soir. Et nous terminerons en parlant des abeilles.
Oui, alors on va commencer par les mouvements sociaux, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une grève générale lancée par la majorité des syndicats, enfin une bonne partie des syndicats, pas tous, hein, faut quand même le dire. Les gros déjà, CGT, FO, FSU, Solidaires, et puis quelques-uns un petit peu plus petits, comme la CNT, et plein d'autres. Donc, cette mobilisation s'est faite en deux temps, en province, dans des manifestations dites régionales, avec 7000 personnes à Marseille, 10000 à Bordeaux, 7000 à Lyon, 8000 à Toulouse, 3000 à Nantes, 5000 à Rouen, 2200 à Rennes. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce que, en fait, notamment la CGT avait plutôt lancé un appel pour qu'il y ait une mobilisation à Paris. Et donc, ils avaient affrété des cars, notamment, essentiellement des cars d'ailleurs, avec cette incohérence d'obliger des conducteurs de cars à travailler un jour de grève. Plutôt que de faire des manifs locales, ils voulaient essayer de peser un petit peu sur le gouvernement, en étant nombreux dans les rues parisiennes. Ils ont été un certain nombre dans les rues parisiennes, quelques dizaines de milliers de personnes, mais c'était pas non plus un raz-de-marée. Il faut dire que l'appel restait relativement flou, même s'il y avait, c'était officiellement une manifestation anti-austérité. Ils sont pas arrivés à mobiliser la population, alors que la politique du gouvernement est rejetée quand même par l'essentiel des personnes qui ont élu ce gouvernement dit de gauche. Donc ces gens-là auraient pu se mobiliser, descendre dans la rue en disant non, on veut pas de la politique libérale que pourchassait par ses propos Hollande dans la campagne présidentielle. Mais non, du coup, il y a toujours cette incohérence qui fait que, soi-disant, les personnes qui auraient voté à gauche seraient pas contents, mais ils se sont pas mobilisés. Donc la conclusion, c'est que le gouvernement va continuer dans sa lignée. C'était le cas ou jamais de faire basculer le gouvernement, de faire peur au gouvernement. Ben non, non, non. Seuls finalement les plus syndiqués, les plus motivés se sont déplacés dans ces manifestations. D'ailleurs, si on regarde les métiers, les branches touchées, les premiers à s'être mobilisés, comme souvent dans ces grèves qui sont pas très importantes, c'est les fonctionnaires, notamment les enseignants, puisqu'on a à peu près 25% des enseignants du public qui étaient en grève. Pour Paris et la Seine-Saint-Denis, c'est même jusqu'à 50% du taux des enseignants en grève. À Lyon, par exemple, 35 écoles étaient fermées, 82 étaient en grève, 82 cantines étaient fermées. À Villeurbanne, ça a aussi beaucoup mobilisé. Grosso modo, dans la fonction publique, ça a mobilisé, notamment à Lyon, ceux qui luttent contre la politique de destruction sociale que pratique Gérard Collomb se sont mobilisés, étaient même en tête de cortège. Donc voilà, mais c'est pas allé au-delà de ces plus mobilisés, plus facilement mobilisables aussi. Parce que les syndicats, finalement, sont pas arrivés non plus. Faut dire qu'ils sont pas aidés, hein. Les médias n'étaient pas avec eux, hein. Les médias ont très peu parlé de la grève avant, si ce n'est en termes négatifs comme d'habitude. Alors, il y a quelques grèves symboliques quand même. La Tour Eiffel était fermée jusqu'à 18h ce soir. C'est symbolique parce que, et important parce que ça touche les touristes. Les touristes se rendent compte qu'il se passe des choses en France, donc c'est pas mal. Le musée du Louvre n'a pu ouvrir qu'à midi, donc avec 3 heures de retard, ce qui était pas mal. Là où, finalement, cette grève a eu un impact supérieur, c'est dans la grève des aiguilleurs du ciel, hein, puisqu'ils en sont à leur deuxième jour de grève pour des raisons propres, hein, de réforme voulue par le gouvernement et l'aviation civile de flexibiliser un peu plus leur métier. On rappelle que leur métier est fondamental pour la sécurité des avions, hein, pour pas qu'ils tombent, et surtout qu'ils se rendent dedans, parce qu'ils peuvent pas les empêcher de tomber. Le syndicat, le SNTA, qui est le plus gros syndicat des contrôleurs aériens, t'es arrivé à beaucoup mobiliser hier et aujourd'hui un peu plus parce que se sont rajoutés aussi dans ces grévistes ceux qui se mobilisaient plus particulièrement pour cette journée du 9 avril. Du coup, la direction générale de l'aviation civile hier avait demandé aux compagnies de supprimer 40% de leurs vols. Aujourd'hui, elle avait demandé la suppression de 50% des vols, la moitié. Voilà, donc ça a eu un impact dans les gros aéroports français, notamment à Lyon, puisqu'il y a eu plus de 40% d'annulation à l'aéroport de Lyon-Saint-Olas ou Saint-Exupéry quand on vit dans le monde moderne. Donc voilà, cette journée de grève sera comme d'habitude, une journée au milieu de nulle part et pour rien du tout, et aura donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sera malheureusement la conclusion pour ce mouvement-là, pour cette grève-là, aura un impact quasi nul. On notera quand même, dans la manifestation parisienne, la présence de grévistes de France Inter notamment, hein, puisqu'on sait que Radio France est en grève, hein, avec une grève record pour différentes raisons, avec un patron qui a l'air de pas être très performant, en tout cas en termes de dialogue social. On attendait dans l'après-midi des idées, des infos, des propositions de la ministre. C'est peut-être arrivé dans la dernière demi-heure, là, juste avant ce qu'il y a eu info, on l'a pas eu. Mais voilà, Valls a trouvé que cette grève était inadmissible et trop longue. Sauf que effectivement, quand on réduit aussi les finances de la radio et de la télé publique, c'est normal qu'à un moment les salariés se rebellent. Et ça, Manuel Valls ne l'a pas dit, il n'a pas voulu assumer, hein, qu'il est en grande partie responsable aussi. Mais c'est pas simplement le patron, hein, de Radio France qui est responsable de la grève. Alors on va continuer dans la grève avec un mouvement chez EcoCert, c'est ceux qui font, qui certifient l'agriculture biologique, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est le numéro un mondial de la certification des produits biologiques. Alors c'est un mouvement rare, puisque ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de mouvement social à EcoCert France. Donc c'est une filiale, hein, du groupe, je vous rappelle le slogan peut-être, au service de l'homme et de l'environnement. Bon, bah là il y a un gros conflit, hein, quand même, on va le dire. C'est un mouvement unitaire, CGT, CFDT, une grève très importante, donc ce mardi et ce mercredi. Il faut dire que l'entreprise a engrangé un certain nombre de profits ces dernières années. Il y a une très forte activité en hausse. En 2013, EcoCert a engrangé près d'1 million d'euros de bénéfices. Donc il y a une grosse aussi redistribution aux actionnaires. Et pourtant, ben les choses évoluent pas bien. Les syndicats font savoir que 70% des employés ont un salaire mensuel inférieur à 1600 euros net. Ce sont des gens qui ont de fortes qualifications quand même. Donc ils demandent une nouvelle valorisation des salaires, et ils demandent pour tout le monde 120 euros brut. Ils refusent la prime au mérite. Ils veulent qu'il y ait aussi des primes qui soient fixes. Voilà, il faut savoir qu'ils ont proposé des tas de choses, hein. Ils ont peu de retours en face, c'est-à-dire qu'ils expliquent en fait que la direction reste bien campée sur ses positions, refuse les négociations, refuse les médiations. Donc eux, ils expliquent que c'est l'entêtement de la direction hein, qui les a contraints à faire grève. Alors évidemment, c'est tout le contraire que déclare la direction d'Ecocert. Ils ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux. C'est très drôle puisqu'ils expliquent à la suite de la publication dans les médias et sur les réseaux sociaux d'informations incomplètes et pour certaines mensongères, nous souhaitons apporter les précisions suivantes sur les conditions de rémunération de nos salariés. Alors, c'est marrant comme aujourd'hui, c'est vrai que les syndicats ont su se saisir de ces réseaux sociaux qui finalement parfois s'avèrent utiles. On peut dire hein, quand même que c'était pas les organisations qui ont été les plus rapides à se servir de l'outil internet. Bon bah là, je crois qu'a priori ils ont rattrapé leur retard sur ce coup-là, puisque ça a le don d'énerver la direction d'Ecocert, qui donc tient à souligner que c'est pas vrai, ils ont pas des salaires à 1600 euros net, puisqu'en fait, si on additionne le tout avec toutes les primes et toutes les affaires, on est plutôt proche du 2000 euros net. Alors évidemment, c'est ce que reprochent les syndicats et les salariés en grève, c'est qu'ils en ont marre d'avoir des bas salaires. Ce qu'ils aimeraient, c'est avoir un salaire correct et pas être obligés de suer toute l'année pour arriver à choper leur prime. Hein, parce que c'est ça, hein, en fait, c'est de la prime au mérite. Donc dans ce communiqué, il nous explique Ecocert les conditions d'embauche pour les postes d'auditeurs et de chargés de certification. C'est marrant les avantages que des fois les patrons nous mettent en avant. Donc pour l'auditeur, on apprend que le temps de travail est annualisé. Ça arrive dans plein de métiers. Hein,
oui, et puis c'est pas terrible.
Parfois, ça permet effectivement d'avoir une meilleure maîtrise de ses congés, mais ça permet.
Mais pas toujours.
Mais pas toujours, et ça permet surtout de pas toujours maîtriser son temps de travail. Ça dépend vraiment les secteurs d'activité. Mais là, on nous explique que grâce à ce temps de travail annualisé, ça permet une grande autonomie d'organisation dans son temps de travail. Donc voilà, justement, s'ils sont autonomes, il faudrait peut-être les payer justement tous et toutes correctement. Donc voilà, c'est une grève importante chez Ecocert, hein, qui effectivement est dans le bio, donc on a toujours cette image que tout va bien et que tout est beau. La preuve que non. Ecocert, par le passé, ils ont déjà eu un certain nombre de problèmes. Et rebelote qu'ils redistribuent correctement les bénéfices engrangés ces dernières années.
Alors parlons un peu maintenant de nos ennemis que nous qualifions de profiteurs.
Ouais, alors je vais continuer avant qu'on parle de banque. Alors vous avez entendu que le groupe Vivart va licencier 1000.
C'est quoi Vivart?
Alors en fait c'est une enseigne qui a 17 000 salariés en France, qui possède un groupe qui possède les enseignes La Halle, vêtements, La Halle aux chaussures, André, Koukaï, Naf, Chevignon, Carole et Minelli. Donc quand même un gros groupe.
Ouais.
Paquet de 17 000 salariés, ouais c'est un gros groupe. Ouais. Donc ils ont annoncé mardi un plan de suppression de postes, 1600 suppressions de postes. C'est beaucoup. Hein. Le secteur le plus touché, c'est l'enseigne La Halle. Il y a 4000 salariés actuellement. On parle de 1344 postes nets supprimés. Une fermeture de 174 magasins sur 620. Il y en aurait peut-être une vingtaine de plus qui seraient concernés si jamais il n'y a pas de repreneurs. Hein, donc, c'est pas fini. André, par exemple, il y a 37 magasins qui vont être fermés. Il y a 500 salariés. Il y aurait une centaine de suppressions de postes. Donc voilà, c'est encore dans le secteur du commerce, encore un gros paquet de licenciements. Et la deuxième affaire sur ce groupe, c'est aujourd'hui Le Parisien qui raconte que l'ancien PDG du groupe, qui a été remercié en octobre dernier, Monsieur Lelandais, serait parti avec un chèque de plus de 3 millions d'euros.
Ah ben c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de faire des économies. Savait pas.
Alors, évidemment, c'est une affaire qui évidemment, tombe bien. Ça, c'est quand, d'un seul coup, la presse se met à faire aussi un travail journalistique. Tout de suite, on va le dire, Monsieur Lelandais nie avoir reçu 3 millions d'euros. Il conteste formellement la chose. Il explique que le document présenté est erroné et ne correspond pas à ses indemnités de départ. Alors, il y a un certain nombre de journaux, justement, qui se sont amusés à faire un petit peu quand même aussi leur travail, hein, et qui ont fait quelques calculs. Et bon, tout le monde veux bien admettre que c'est peut-être pas le vrai chiffre, mais qu'on n'est pas loin, voire peut-être même qu'on dépasserait cette somme. Donc ça fait sourire un petit peu quand même tout le monde, mais alors sauf les salariés, hein, qui eux évidemment sourient pas du tout. Les syndicats hurlent, ils ont bien raison. Les syndicats, on pourrait aussi dire qu'ils notent l'opacité hein, de la direction dans tous les domaines. Bah là, c'est aussi le cas, puisque finalement il a fallu que la presse s'en mêle pour qu'il y ait un petit peu des informations qui arrivent à sortir, même si il y avait déjà depuis son départ un certain nombre de choses hein, que les syndicats avaient mis en avant, sauf que ils n'étaient pas partis forcément pour entrer dans une colère noire. Bah là, voilà ce qui s'est fait. Et puis en plus, avec tout licenciement, on imagine que ça va être rude.
Alors, ce coup-ci, on va vers encore un plus gros profiteur que ton patron. Une énorme banque, HSBC, banque anglaise, qui, c'est la bonne nouvelle du jour, a été mis en examen en France, donc pour complicité de blanchiment de fraude fiscale. Alors, c'est la holding britannique hein, qui est mis en examen, avec un truc assez incroyable, une caution de 1 milliard d'euros. C'est pas le record. Hein. Le record est, c'était la banque UBS qui avait eu pour un dossier d'évasion fiscale une caution de 1,1 milliard d'euros, mais c'est quand même des grosses sommes. Mais il faut dire que les sommes détournées, les sommes détournées, c'est le mot utilisé par tout le monde pour dire que les riches ont volé de l'argent, hein, parce que c'est bien de vol dont il s'agit, puisque c'est un manque à gagner pour les citoyens français, puisque c'est des impôts qui sont détournés et qui ne serviront pas ensuite à payer des profs ou je ne sais quoi, je ne sais quel fonctionnaire ou des travaux, etc. Donc, la banque HSBC à Trace Holding a répondu. Elle trouvait que la décision des magistrats était infondée et que le cautionnement de cette valeur-là était injustifié et d'un montant démesuré. Donc, elle veut aller en appel, faire appel de cette décision et défendra ses argumentaires, elle présentera ses argumentaires à la justice. Donc, cette mise en examen, elle est aussi prononcée pour complicité de démarchage illicite. Donc ça vient à toutes les affaires qu'on a eues récemment, notamment la SwissLeaks, où la banque est aussi poursuivie parce qu'elle a démarché activement des clients en France pour leur dire « on a un moyen pour que vous voliez l'État français en ne donnant pas tous les impôts que vous auriez dû payer à l'État français ». Donc c'était une démarche active. Et c'est pour ça aussi que la caution est si élevée. Alors, faut savoir que la banque HSBC qui est mise en cause en premier, c'est pas la holding, hein, c'est la HSBC suisse qui, elle, va bientôt être poursuivie, elle est déjà poursuivie puisqu'elle a un procès qui va s'ouvrir plus tard dans les prochains mois en France. Donc, c'est un peu la deuxième couche contre HSBC. D'abord la banque suisse et ensuite la holding qui est donc poursuivie pour responsabilité, puisqu'elle est holding au-dessus, c'est la maison mère de la HSBC suisse. Voilà. Alors il y a plein de doutes. Hein. Le dossier des juges, de ce qui est sorti dans les médias, a l'air relativement épais quand même, puisque d'après les calculs suite à l'opération de SwissLeaks, là, il y avait 180,6 milliards d'euros appartenant à plus de 100 000 clients, c'est-à-dire 20 000 personnes morales, qui ont été détournés entre novembre 2006 et mars 2007, en quelques mois. Vous imaginez 180 milliards d'euros de manque à gagner pour les États, pas que pour la France. Pour la France, ça se monte à 5 milliards d'euros en 6 mois volés par ces 9000 clients, détournés par ces 9000 clients avec l'aide de HSBC. C'est quand même des sommes énormes. Alors on pourrait se dire que quand HSBC a arrêté, parce qu'ils ont fait profil bas depuis, ils ont dit oui, on reconnaît qu'il y a eu des manquements, mais qu'aujourd'hui ces pratiques appartiennent au passé. Alors, on sait que c'est pas des manquements puisqu'ils sont poursuivis pour démarche illicite, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des riches pour leur permettre de détourner de l'argent. Donc là, ils n'ont pas encore été condamnés, mais on sent bien qu'il y a eu une démarche volontariste de leur part. Et ils disent que ces pratiques appartiennent au passé. Ce qu'on peut avoir en tête, ce qu'on peut imaginer, c'est que d'autres ont pris le relais, hein, et que les riches continuent de voler l'État français en ne payant pas la part due à travers l'impôt. Donc voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle, cette mise en examen de HSBC. Allez, parlons un petit peu de Torrent.
Oui. On va parler de torrent, donc de téléchargement, et de problèmes de justice. Alors, il y en avait qui s'étaient réjouis, c'est la Société civile des producteurs phonographiques qui avait communiqué sur son site que son action en justice avait été victorieuse, puisque le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux quatre principaux fournisseurs d'accès à Internet, c'est-à-dire Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom, de bloquer l'accès à t411.me. Vous savez, c'est un site avec des liens BitTorrent qui a eu quelques soucis et qui est donc attaqué. Voilà. Alors, c'était une demande de la Société civile des producteurs phonographiques qui s'est donc attaqué à ses fournisseurs d'accès à Internet en leur demandant donc qui demandait donc un blocage. Le tribunal de grande instance de Paris fait exécuter demande à ce qu'il y ait exécution donc suite à cette demande. Alors le TGI de Paris s'appuie sur un article du Code de la propriété intellectuelle et il exige dans son jugement que les opérateurs empêchent les abonnés d'accéder au site au plus tard le samedi 18 avril pour une durée d'un an. Donc tout ça semble très carré et très précis, sauf que il y a un petit os dans l'affaire, c'est que bah il y en a, ils sont pas bêtes quand même quand ils montent des sites, des plateformes. Donc il y a eu l'histoire de The Pirate Bay il y a pas très longtemps, ils se sont servis de cette expérience et ils ont changé de nom de domaine, ce qui veut dire que cette demande de la société civile elle vaut plus rien puisque je vous l'ai dit était faite sur le nom de domaine avec .me.
Et maintenant ils sont
.io. Alors ils sont passés du Monténégro au territoire britannique de l'océan Indien.
Hop, paradis fiscal.
Ils ont fait un petit saut. Voilà, donc c'est une mesure de blocage qui va ne servir à rien, disons-le tout de suite. Alors, ce qui est très drôle, c'est que donc le site, la plateforme avait bien anticipé finalement ces problèmes juridiques. Mais alors en plus, ils vont plus loin. C'est qu'ils expliquent comment contourner le blocage. Ils ont mis un petit document très pédagogique. Alors bon, évidemment, il faut savoir un petit peu le lire quand même. Mais tout ça vous explique comment contourner le blocage des opérateurs et puis vous livre quelques solutions clés en main. Tout ça est très pratique. Quand même, ils ont fait les choses bien. Alors, je vous le disais, le TGI s'est appuyé sur le code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les droits des ayants droit. Et prononce cette mesure de blocage. Alors c'est vraiment faute de mieux. On leur a pas demandé autre chose. D'ailleurs, le tribunal reconnaît que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, mais il estime qu'en fait, finalement,
la plus grosse partie, elle sait pas faire
et elle va pas prendre le temps de faire. Donc finalement, ça pourrait être quand même un petit peu utile.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux quatre gros fournisseurs d'accès, alors qu'il y en a plein d'autres. Notamment, il y a un alternatif là qui doit s'appeler SDN, qui doit exister toujours, qui sont pas concernés par tout ça. Donc, si vous êtes chez un alternatif de l'internet et pas chez un gros une des quatre grosses multinationales.
Ouais. Sauf que si les gens font ce que font la majorité des gens, c'est-à-dire vont taper dans un moteur de recherche juste comme ça,
ils vont trouver le nouveau.
Ils vont trouver le nouveau et ça, tout ça est très très simple et tout ça en fait bon c'est un jeu de c'est le chat et la souris, c'est perpétuel et permanent. Donc c'est pour ça que quand moi je lis dans certains articles de presse que en fait ça leur permet de continuer tranquillement leur activité, non, c'est pas tranquille leur activité, c'est être tout le jour en vue vigilant en action et puis être aussi de plus en plus performant pour justement éviter de se retrouver bloqué. Donc voilà, c'est non, ils font pas ça tranquillement, ça demande du travail.
On notera que la justice et l'État ont l'air moins efficaces que Daesh pour bloquer les sites internet. Vu avec TV5.
Ouais. D'ailleurs, je voulais juste dire un petit mot si je retrouve ma petite feuille là-dessus. Aujourd'hui, nous avons quand même trois ministres qui se sont déplacés donc dans les locaux de TV5, monsieur Cazeneuve, monsieur Fabius et madame Pellerin. Hop là, donc vous avez suivi le site internet de TV5 Monde a été attaqué, leur page sur les réseaux sociaux, donc c'est un groupe qui se revendique comme s'appelant Cybercalifat. Voilà, donc ils ont dû interrompre, c'est quand même une grosse affaire, hein, ils ont dû interrompre leur programme, donc ça s'est passé dans la soirée de mercredi. Alors, moi, c'est juste pour faire une transition, hein, tu permets. Donc j'ai lu un petit peu ce que un peu les gens avaient pu déclarer, en particulier chez les politiques. Alors j'ai trouvé monsieur Estrosi. Alors il écrit sur son compte Twitter « Piratage TV5 Monde revendiqué par djihadistes démontre une fois de plus l'état de guerre où nous trouvons face au terrorisme islamo-fasciste ». Bon, c'est le même qui, le 6 avril dernier, a écrit sur son compte Twitter « Avant toute implantation d'une nouvelle mosquée en France, je demande l'application du principe de précaution ».
Le principe de précaution sur une mosquée.
Voilà. Vous pouvez lire l'intégralité de son texte sur Facebook. Je pense qu'il faut prendre des drogues euphorisantes, et puis je pense qu'on passe un bon moment, parce qu'en fait il arrête pas en ce moment de s'en prendre sur son compte Twitter comme sur Facebook, enfin plutôt sur son compte Twitter d'ailleurs, au Front National, en disant oh là là ils sont horribles,
et il a les mêmes propos.
Voilà, donc c'était juste pour te faire une transition.
Bah, une transition avec un flic assassin, mais ça pourrait se terminer bien pour la famille, en tout cas. Alors, l'histoire, hein, c'est arrivé samedi dernier dans la ville de North Charleston, aux États-Unis d'Amérique. Walter Scott, 50 ans, s'engueule avec un flic. Alors, il se fait arrêter parce qu'il lui manque un feu sur le, enfin, un phare, hein, sur son véhicule. Un truc tout bête. Ça se passe mal avec le flic. Il est tué. Jusqu'ici, tout va bien. Classique aux États-Unis d'Amérique, le flic est blanc, l'automobiliste assassiné est noir. On est dans la tradition raciste de la flicaille américaine. Et comme d'habitude, on se dit, bah voilà, le flic, il fait son rapport, il explique, ouais, j'avais d'abord sorti mon pistolet paralysant, il me l'a pris, donc après j'ai eu peur et je me suis défendu et j'ai tiré, je l'ai tué. Et puis tout le monde allait le croire comme d'habitude parce que c'était évident. Sauf que un petit malin était à côté, pas très loin, et a filmé. Il a contacté les avocats de la famille et il a donc donné la vidéo. Et sur cette vidéo, on voit le flic alors tirer 8 balles dans le dos du gars alors qu'il se barre en courant, en boitant, en marchant mal, parce que vraisemblablement le flic lui a tiré dessus d'abord avec son pistolet paralysant là. A priori, ce qu'on peut comprendre avec la vidéo, en tout cas, il lui tire 8 balles alors que le mec est de dos devant lui. Il n'y a pas de risque sur le flic, c'est évident. En plus, le flic, on le voit un coup poser son pistolet, puis après se raviser son pistolet qui est censé immobiliser, pas celui qui, avec les vraies balles, qui a tué le conducteur. Enfin voilà, ça sent la magouille à plein nez. Et ben là, face à ça, tout le monde est embêté et la justice est obligée de le poursuivre et de l'inculper pour l'instant pour meurtre. Parce qu'effectivement, ils ont cette vidéo. Alors, ça veut pas dire que ce flic va être condamné, puisqu'on a eu d'autres affaires. Hein. Ces deux dernières années aux États-Unis, on a pas mal d'affaires de blancs flics qui tirent sur des noirs avec des témoins, avec tout ce qu'on veut, qui démontrent que le black, le noir, était pas menaçant du tout, et la justice soit abandonne. En disant, ouais, il n'y a pas assez de preuves, ou on a des doutes, ou je sais pas, ou quand elle va jusqu'au bout, le tribunal dit populaire ne condamne pas le flic. Donc, ça veut rien dire de ce qui va arriver par la suite, mais là, ça paraît tellement énorme, la vidéo est tellement choquante, hein, c'est un assassinat pur et simple, que on se voit mal comment la justice, quand même, pourrait ne pas le condamner. Mais comme c'est un tribunal populaire qui va juger, on n'est pas à l'abri que dans ce tribunal populaire, il y ait majoritairement des blancs, racistes, et que le flic, comme c'est déjà arrivé moult fois, sorte libre comme l'air de recommencer à tuer les personnes qu'il n'aimerait pas. On notera quand même la réaction du maire de la ville, qui est une réaction contenue, pour parler poliment. Il a dit, quand vous prenez une mauvaise décision, peu importe que vous soyez là pour protéger la population ou un simple citoyen dans la rue, vous devez vivre avec cette décision. Donc il parle du flic. Moi j'appelle pas ça une décision, hein. Quand on assassine quelqu'un, effectivement c'est normal que la justice le poursuive. Pour lui, c'est juste dire oui, il est face à cette mauvaise décision qu'il a prise. La mauvaise décision, c'est quand même la mort d'un homme. Vraisemblablement, le maire de droite a choisi ces mots pour quand même à la fois condamner l'assassinat et pas dire que c'était quand même si mal que ça. Voilà, c'est tout pesé, mais c'est quand même plutôt glauque d'entendre ça. Donc voilà, on notera quand même que le flic vise pas mal, puisque sur 8 balles, il y en a 5 qui ont touché le conducteur, l'automobiliste. C'est encore à moi ?
Tout à fait.
Après ça, j'ai du mal à parler d'autre chose. Oui, on va parler de choses de manière un peu plus décalée, plus rigolote, parce que sinon on va pas être en très bonne forme à la fin de ce Canu Info. Oui, vous avez vu, il fait beau, c'est le printemps, c'est sympa, les températures montent, le soleil est là, et l'air est pollué. Alors ça, c'est un espèce de paradoxe de l'époque moderne. La région Alpes est pas encore trop touchée, mais la région parisienne l'est énormément. Donc pollution, comme d'habitude, aux particules, plus ou moins fines, on a les tailles. Je rappelle, on vous dit deux chiffres, on vous dit deux lettres. PM, ça veut dire particules, et 10, c'est la taille en micromètres des particules. Plus le chiffre est petit, plus les particules sont petites, et plus les particules sont dangereuses. Pourquoi ? Parce que la pollution qui est actuellement à Paris, le seuil de dépassement de l'alerte pollution pour les particules de 10 micromètres, c'est les particules qui rentrent dans les poumons, qui sont de la taille d'une cellule, donc rien protège. Vous pouvez mettre un masque, comme on voit certains cyclistes qui se baladent avec des masques devant le nez, ça ne sert à rien sur les petites particules. Seuls les masques à gaz, vous savez, comme dans les films là ou de l'armée, eux, avec des charbons actifs, avec tout ça, arrivent à bloquer ces petites particules. Donc, il n'y a pas de solution pour se protéger. Alors, Air Paris, qui est l'institut parisien, on a l'équivalent dans la région Alpes, qui s'occupe de mesurer l'air, essaye d'expliquer chaque fois. Alors, ils nous font le discours sur, bon, c'est le trafic routier, hein, l'automobile en premier, le chauffage au fioul. Bon, là, ça marche moins sur le chauffage au fioul, hein, parce qu'on commence à être en avril, alors même s'il fait un peu froid le matin, il fait chaud l'après-midi, donc il y a beaucoup moins de pollution, quasiment pas même. Voilà, un peu l'industrie, et puis là, dans cet épisode particulier, dû au printemps, on nous dit que 60% de ces particules viennent de l'agriculture. En fait, on n'imagine pas, mais l'agriculture, quand ils épandent de la matière, ils mettent en suspension dans l'air ces petites particules qui après se baladent. Et ils récupèrent à Paris toute la pollution des grosses zones agricoles productivistes qu'il y a autour de la région parisienne, et ça leur fait une grosse partie de la pollution. Sur cet épisode d'avril, sur les autres épisodes, c'est pas toujours le cas. Mais le reste étant essentiellement dû à la circulation automobile, bien évidemment. Et là, au comble du bonheur, au comble de l'intelligence, de la capacité, de l'intelligence scientifique, Ségolène Royal a une solution. Vous savez qu'elle est contre la circulation alternée. Hein, en tant que ministre socialiste de droite, elle pense que tout ce qui limite le commerce n'est pas bon, donc elle est contre la circulation alternée. Par contre, elle dit « Moi, j'ai la solution ». Et je cite, attention, je cite Madame Royal, « Moi, ce que je veux, c'est que dans 5 ans, les villes soient toutes respirables ». Alors je dis « Ouais, moi aussi, j'ai envie de ça. Même pas dans 5 ans, même demain, moi, demain matin ». Et elle a la solution. Je finis la phrase. « Parce que les bus et les taxis seront électriques ». Eh ben putain, non mais pardon, excusez-moi. Mais il faut quand même, alors c'est de la propagande, c'est du mensonge, c'est ou de l'incompétence. Le pourcentage de pollution faite par les taxis ou les bus, c'est pas la majorité, c'est pas 50%. Donc ça va rien changer ce qu'elle va faire. Les bus, ils sont déjà majoritairement électriques, enfin en tout cas à Paris. L'essentiel, enfin une grosse des transports en commun, c'est le métro. Alors il y a des particules dans le métro, mais bon, c'est un autre problème. Mais c'est électrique. Il reste un peu des bus en surface, et ça représente quoi par rapport à la circulation automobile dans le Grand Paris, hein, dans toute la région parisienne. Donc elle nous fait son discours de propagandiste pro-pollution, mais qui se masque derrière sa casquette de ministre de l'écologie en disant « j'ai la solution ». L'idée derrière elle, derrière tous ces gens, ces socialistes de droite, alors sur l'écologie, ils le sont presque tous, les socialistes de droite, ou anti-écolo en tout cas, il y a le fait de surtout pas dire, et de pas dire aux gens, mais c'est un peu de votre faute. Si, parce que le bus, les gens vont dire, mais nous on est pour rien, on monte dans le bus, on n'a pas acheté le bus. Si on dit que c'est la voiture, ce qui est la réalité quand même, les gens, c'est dire aux gens, bah oui, mettez-vous en face du problème, vous êtes responsable de la pollution. Et là, ils sont pas capables de faire ça, parce que c'est un enjeu politique de dire aux gens qui votent pour eux, notamment, bah que oui, c'est en partie à cause de vous, hein, qu'on a la pollution. Alors, Ils sont pas capables de s'émanciper de ce discours électoraliste, hein, de dire des choses qui vont à l'encontre des gens qui votent pour eux, même s'ils sont capables de faire une politique de droite, alors que les gens qui ont voté pour eux, ils étaient pas pour cette politique de droite économique. Mais voilà, et je me dis qu'avec une ministre de l'écologie de cette valeur-là, on n'a pas gagné. Je pense que l'écologie est morte, ou elle est, en fait, elle n'est jamais vraiment vécue politiquement en France. Mais là, c'est quand même très triste d'entendre ça de la part de Ségolène Royal, qualifiée de ministre de l'écologie.
Je crois que tu vas nous parler de l'ADEME maintenant.
Oui, alors là, par contre, c'est dans la série. On a l'ADEME qui est l'agence de développement et de maîtrise, l'agence de maîtrise de l'énergie. Je sais pas ce que veut dire le D d'ailleurs. Peut-être c'est l'agence de maîtrise de l'énergie, qui travaille pour essayer de faire changer les habitudes, qui fait plein de rapports, plein de formations pour inciter la population, les collectivités à changer un petit peu leur comportement. Ce sont pas des militants acharnés de l'écologie radicale, voilà tout ça. Ils ont préparé un rapport qui devait remettre à l'État le 14 avril. Un rapport dans le cadre des rencontres qui ont lieu à Paris, d'un colloque très exactement, sur les énergies renouvelables dans le mix électrique français, donc organisé le 14 et 15 avril prochain. Ils ont fait une grosse étude, l'ADEME, et il y a eu des pressions, et ils ont rangé l'étude. Ils la sortiront pas le 14 et 15 avril. Sauf que, à mon avis, dans ceux qui ont bossé sur l'étude, c'est mon avis, ça a pas plu à quelqu'un et qui a donc balancé l'étude, et on la trouve donc aujourd'hui sur Internet. Donc en PDF, les 119 pages sont disponibles, c'est très très bien fait. On va donner la conclusion de l'étude, c'est très simple. La conclusion de l'étude, c'est 100% d'électricité renouvelable est possible en 2050. Et il y a toute la description de comment faire. Technique. Alors, ils partent d'une légère prise en charge par les citoyens de faire des économies. Donc, il y a une petite baisse, réduction de 14% des besoins des consommations électriques, ce qui est pas beaucoup. Hein. On sait qu'il y a un potentiel d'économie d'au moins 30% de l'économie. Eux, ils ont tablé sur 14%, en sachant que la France a une population qui augmente. On va faire des économies. Naturellement, chaque fois qu'il y a un frigo qui sort, il est plus économe que celui d'avant. Donc c'est aussi un phénomène qui est lié à l'amélioration de l'industrie. Donc ils sont partis de ce principe-là. Finalement, la consommation annuelle de la France, telle qu'il l'estime en 2050, ce sera 422 terawatt-heure. Bon, tera, 10 puissance 12, ça fait beaucoup, mais c'est, voilà. Donc c'est un chiffre intermédiaire entre les pronostics les plus... ceux qui croient vraiment que les êtres humains vont se prendre en charge et on peut réatteindre 406 terawatt-heure, et ceux qui sont pessimistes, qui disent on atteindra 487. Eux, ils disent on va partir sur 422 terawatt-heure consommés en 2050. Et comment on peut faire pour fabriquer ces 422 terawatt-heure d'électricité? Et eux, ils ont regardé, ils ont étudié le vent, ils ont étudié le soleil, l'eau, tout ce qui était possible en énergie renouvelable. Et ils se sont rendus compte que, contrairement à la propagande habituelle, que, ah oui, mais quand il y a des périodes d'anticyclone, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand il y a de l'anticyclone, il n'y a pas de vent. Ah oui, mais quand il y a de l'anticyclone, il y a du soleil. D'ailleurs, c'est l'inverse. Quand il y a du vent, c'est souvent dans les périodes où il y a moins de soleil. Donc les énergies se compensent. Ils ont étudié tout ça. Comment faire pour que la surconsommation de 19-20 heures, alors que notamment on va dire au moins la moitié de l'année, on produit beaucoup moins de 19 à 20 heures parce que le solaire, il y a plus de lumière à cette heure-là, notamment dans l'hiver. Donc ils expliquent comment stocker l'énergie électrique, les différentes méthodes. Il reparle de la méthode STEP, par transfert par pompage. On a des lacs, on monte l'eau dans les lacs et on la redescendra pour fabriquer l'électricité ensuite. Enfin, ils expliquent tout en détail. Le développement des véhicules électriques ou hybrides qui va augmenter la consommation. Tout est détaillé et ils arrivent à la fin, à la conclusion énorme quand même que on peut avoir d'ici 2050 100% d'énergie renouvelable. Et quand ils font le calcul du coût, c'est pareil, grosse étude. Et là, ils arrivent, ils disent, par an, ça coûte, si on décide d'être dans le 100% renouvelable, 50,4 milliards d'euros par an. Si on décide d'avoir que 40% de renouvelable, ça coûte 49,5 milliards d'euros. 0,9 milliards d'euros d'écart. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, eux, ils disent, à la fin, la conclusion, 100% d'énergie renouvelable est possible sans aucun problème et le coût sera identique, voire inférieur au coût de l'énergie nucléaire. Donc, ils ont balancé un pavé dans la mare, sauf qu'il n'est jamais arrivé dans la mare au départ, puisque on leur a demandé discrètement de ranger le rapport. Ça tombe très très mal pour le gouvernement, puisqu'ils sont dans la négociation de la transition énergétique. Ça, ça démontre que vouloir réduire le nucléaire en fermant une centrale, c'est vraiment être petit joueur et qu'il y a les moyens de s'en sortir correctement. Ça rejoint, c'est assez proche et complémentaire des calculs des scientifiques du réseau Negawatt, hein, qui explique bien aussi, si vous voulez des renseignements avec des belles courbes, comment se passer du nucléaire et passer en 100% renouvelable d'ici 2050. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes chiffres, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes hypothèses et les mêmes analyses, mais à la fin, on arrive à la même conclusion. Donc voilà, une bonne claque dans la gueule du gouvernement, qui n'en tiendra pas compte, bien évidemment, puisque les nucléocrates en France sont très très forts.
Alors, on va parler des Amis de la Terre et de différentes banques. Vous savez, les Amis de la Terre, ils ont fait une spécialité ces derniers temps, c'est d'attaquer les banques qui financent des projets...
Destructeurs de l'environnement.
J'allais dire catastrophiques, mais destructeurs, oui. Mais va aussi très bien. Et donc, ils s'attaquent à certaines banques. Et là, c'est trois banques françaises, excusez-moi, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, qui ont annoncé hier mercredi leur décision de se retirer du montage financier d'un très gros projet de mine de charbon dans le bassin de Galilée sur le littoral nord-est de l'Australie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est rare quand même.
Alors, il y a un certain nombre de banques qui sont en train de se retirer d'un certain nombre de projets. Donc, je dirais que c'est une bonne nouvelle.
Mais il y a un mais.
Il va venir. Alors, pour vous dire, c'est un projet qui s'appelle Alpha Coal, qui prévoit l'installation d'une mine de 60 000 hectares. Donc, évidemment, c'est pollution des eaux. Et donc, ça attaque l'écosystème de la Grande Barrière de Corail. Donc, c'est assez catastrophique parce qu'elle est déjà touchée par d'autres pollutions. Alors, il faut savoir que dans cette région du bassin de Galilée, il y a 9 projets de mines aussi importantes, voire beaucoup plus importantes. D'autant plus que les Amis de la Terre dénoncent une augmentation de 218% des financements des banques françaises dans le secteur du charbon entre 2005 et 2013. Voilà, hein, le mai, il vient là quand même. BNP Paribas et la Société Générale figurent au 5e et 7e rang des banques engagées dans les projets charbonniers dans le monde. Donc voilà, globalement, les banques continuent à financer et à participer à des projets destructeurs, comme tu le disais, pour l'environnement et puis pour les populations qui vivent dans ces territoires. Bon, c'est déjà ça. On va le prendre pour ce soir. Hein. On a dit qu'on n'allait pas non plus se mettre la tête à l'envers ce soir. Mais voilà, il y a toujours un mess, un peu ça le problème. Mais c'est quand même une belle victoire parce que ça veut dire que derrière, il y a un travail de militants et de militantes qui s'activent et qui portent.
Hein. Ouais.
Alors, je crois qu'on va parler de nucléaire maintenant.
Ah ouais, c'est ça.
À fond.
On va parler un petit peu de nucléaire.
Je cherche, moi, je sais pas, la saga nucléaire, la saga Areva, EPR, mon amour, ouais. Flamanville, on y va, je sais pas. Moi, je rigole quand même.
C'est un gros merdier général, le nucléaire, il faut quand même le dire. Alors, on va commencer par le social, puisque on a parlé des grèves en début de ce Canu Info. On va aller au Niger, donc, dans lequel Areva a des mines, deux. Très exactement, dont une qui marche pas vraiment en fait, mais dans celle qui marche, plusieurs centaines de travailleurs sont en grève. Et oui, parce qu'ils sont pas contents, ils veulent le versement de reliquat d'une prime. Alors, en fait, ils devaient avoir une prime d'1 million de francs CFA, ça fait 1 500 euros. De prime d'objectif financier qui a été promis à chacun des 1332 travailleurs de cette mine. Alors, ils ont déjà touché 400 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 600 euros, et ils réclament la suite. Et pour l'instant, la direction fait la sourde oreille. Alors, en fait, c'est pas Areva qui intervient directement, hein, c'est sa filiale Uramine, mais ils ont dit, non, mais attendez, c'est sur les objectifs 2015, il faut attendre que 2015 soit fini. Donc, on répond comme ça. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que la mobilisation a été très forte, puisque 80% des salariés se sont mis en grève, donc c'est important. Il faut savoir que pour Areva, la mine, cette mine représente 35% de sa production d'uranium. On rappelle que, contrairement à ce que disent les nucléocrates, les nucléophiles ou les imbéciles, 100% de l'uranium français est importé. Hein. On n'est pas autonome. Hein. On importe tout. Hein. De mines australiennes, de mines du Niger, du Kazakhstan, d'un peu partout, enfin de là où il y a de l'uranium. Hein. Donc voilà. Alors le problème d'Areva et de la mine, c'est pas gagné. Hein, on se rappelle de cette mine. C'est d'ailleurs le secteur minier hein, qui a en partie plombé les comptes d'Areva. Pas sur cette mine-là qui fonctionne pas mal, mais sur l'autre mine au Niger, hein, où ils se sont fait un petit peu arnaquer par les banques françaises aussi qui détenaient et qui ont vendu cette uramine. Tout ça. Enfin bon, bref, c'est pas très beau. Hein. Donc le nom de, alors uramine, c'est ce qui avait été revendu et le nom de la société, je vais la dire, c'est Somaïr. Hein, la société qui gère pour Areva cette mine d'uranium. Alors on reste dans Areva et alors là ils ont pris mais un méga coup de boule, une claque, une fusée dans la gueule, un coup de bazooka, je sais pas. Il aurait arrivé un truc de fou, c'est que mardi dernier l'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est le gendarme un peu du nucléaire qui est à la fois partie prenante et qui juge, parce que c'est un truc public qui va juger une entreprise publique sur un secteur public défendu par les politiques et les élus, donc c'est un peu compliqué. Ils ont toujours le cul entre deux chaises. La SN, mais ils essayent quand même de faire leur boulot pas trop mal. Ils se sont rendus compte que la cuve du réacteur du fameux EPR de Flamanville semblait pas conforme. Ah bah mince. Donc l'acier du couvercle, le fond de la cuve et deux pièces qu'on appelle les calottes. Alors, faut savoir que la cuve, une fois qu'elle est posée dans la centrale nucléaire, on peut pas l'enlever. C'est jamais arrivé. Alors on peut changer le chapeau de la cuve, le couvercle. Alors la cuve, c'est une coquette minute. Hein. Si vous avez une coquette minute, ça ressemble exactement à ça. Enfin, il n'y a pas le truc rond dessus, hein, mais c'est fermé pareil, c'est sous pression, tout ça. Comme la coquette minute. Je crois qu'il y a 500 bars de pression hein, dans la vapeur d'eau dans le circuit primaire des réacteurs nucléaires. Donc c'est une grosse, grosse pression, c'est une grosse coquette minute. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde où on a pu changer la cuve, sans péter le bâtiment, sans refaire la centrale. Ils se sont rendus compte, donc, a priori, qu'il y avait des problèmes sur cet acier. Du coup, ils sont paniqués. Et ce qu'a dit aujourd'hui Greenpeace, si jamais, donc là, l'autorité de sûreté nucléaire va faire des tests supplémentaires et demander à Areva d'en faire aussi, si jamais c'était confirmé, c'est-à-dire que le réacteur EPR, on sait même pas si un jour il va marcher, quoi. Parce qu'ils vont être obligés de tout refaire, quoi. C'est là, ils tombent. Enfin, voilà, ils sont au bord du gouffre, voire ils sont déjà dans le gouffre. Alors, ça concerne Flamanville. Faut savoir qu'il y a trois EPR en construction, hein, en Chine et en Finlande. En Chine, on a moins d'écho, mais en Finlande, il y a eu des déboires énormes. Alors, selon l'autorité de sûreté du nucléaire, les calottes, notamment des cuves des réacteurs des deux EPR en construction en Chine, ont été fabriquées par Creusot-Forge, hein, la filiale d'Areva, donc avec le même procédé que celle de Flamanville. Donc c'est pas bon signe. Par contre, pour celle de Finlande, ça a été fait par un autre fournisseur qui est peut-être meilleur. Il y aura peut-être moins de problèmes. Hein. Faut savoir que les cuves hein, sur les anciennes centrales ont déjà plein de micro-fissures, il y a plein de soucis. C'est quand même la partie qui semble hein, quand même un petit peu fragile, enfin, qui est très costaud, mais qui doit résister à de telles pressions, à de tels bombardements de neutrons, qu'il faut que ce soit vraiment parfaitement bien fait, ce qui semble pas être le cas. Donc, aujourd'hui, EDF, maître d'œuvre de la construction de la centrale de Flamanville, avec ses copains Areva, ne répondent à aucune question. Ils bottent en touche, ils ferment leur bouche. Ils disent, oh non, on n'a pas entendu la question. Voilà, c'est quand même, ça ressemble à de la panique. On aura la réponse d'ici quelques semaines. Ce qui pourrait arriver, de pire pour Areva, c'est que effectivement ils se rendent compte que c'est pas bon et qu'il faut refaire, donc là je sais pas comment ils vont faire. Enfin si, ils vont refaire, ça va leur coûter 3 milliards de plus, hein. On est déjà au double, hein. On doit y avoir à peu près 7 milliards je crois, et elle devait coûter 3 milliards 5 là, cette centrale, donc déjà bon, il y a un souci. Si ils refont ça, ça va leur coûter une fortune. Mais ça veut dire qu'il y aura jamais d'autres EPR dans le monde, quoi, parce que là ils ont pris tellement de déboires, et tant mieux. Alors, on sait que il y a une nouvelle génération de centrales hein, qui est en préparation. Les Chinois bossent dessus, Areva doit bosser aussi. Avec nous, l'espoir quand même qu'on arrête ces technologies qui sont très complexes, très fragiles, très sensibles et qui nous créent des déchets radioactifs dont on ne sait que faire. Alors, c'est pas fini pour la saga Areva, parce que Areva, c'est quand même un truc, on pourrait pas en faire un roman, on pourrait pas en faire un film, faut en faire une trilogie de films, une décalogie, un truc énorme, parce que chaque semaine on a des infos. Et là, c'est suite donc aux résultats très très critiques du groupe, hein, plusieurs milliards de pertes. Il y a l'idée qui est lancée par le gouvernement de démanteler Areva, de le repartager en deux. Vous savez, Areva au départ c'est l'assemblage de la Kojima et de Framatome. Hein. Donc là ils veulent refaire pareil. La Kojima c'est la partie combustible que le gouvernement veut laisser à Areva, qui est une partie qui est relative, qui marche pas mal et qui a de fortes opportunités de croissance d'après les économistes du nucléaire, qui contient donc l'extraction, le traitement de l'uranium, son enrichissement, ce que avec des centrifugeuses hein, que feront les Iraniens. Là. Tout le retraitement après, enfin tout ce qui concerne le combustible, ça ils veulent le laisser à Areva. Par contre, toute la partie gestion de la centrale, de la construction des centrales, de la maintenance d'une partie des centrales, hein, ils font la maintenance de pas mal de centrales au niveau mondial et notamment en France, ça serait vendu à EDF, qui deviendrait une grosse multinationale, non pas de l'électricité, mais du nucléaire, de l'électricité nucléaire. Et d'ailleurs, alors c'est ce que veut le gouvernement. Ça inquiète les syndicats, hein, qui se disent mais là ils vont profiter pour virer des gens. Ça c'est évident. Hein. Ils ont bien raison de s'inquiéter, même si je défendrai pas le travail dans le nucléaire, ne serait-ce que pour les salariés qui se prennent des doses de radiation et qui augmentent leur potentialité de cancer. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc beaucoup plus important et qui est souvent mal analysé, c'est que si jamais l'État français fait ça, EDF se transforme en producteur d'électricité, donc en producteur d'électricité nucléaire avec une énorme branche nucléaire. Et ben, avec ça, EDF ne sortira jamais du nucléaire. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement veut faire ça. C'est pour empêcher ce que l'ADEME a dit, ce que d'autres disent, qu'on pourrait se passer totalement du nucléaire. Et ça bloquerait parce que cette grosse entreprise qui est encore en partie publique, ben, si elle a des enjeux tels dans le nucléaire qu'elle peut pas arrêter le nucléaire, sinon elle coule, eh ben, on serait bien obligé de continuer avec le nucléaire. Alors que là, si c'était une entreprise séparée, Areva, à un moment, on peut s'en débarrasser, on peut le revendre, on peut le partager en plein de bouts, mais les laisser les bouts autonomes et des bouts crevés, parce que cette industrie doit mourir aussi, parce qu'il y a des choses beaucoup mieux qui vont arriver dans le futur. Là, ça sera pas possible si c'est EDF, parce que c'est le principal producteur d'électricité française, et ça sera beaucoup plus difficile de faire abandonner le nucléaire. Donc, il y a quand même ça derrière l'idée de ces politiciens qui n'obéissent, hein, qui font qu'obéir, hein, parce que malheureusement, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment les compétences. Ils obéissent aux ingénieurs issus de l'école des mines ou de ces fameuses écoles qui ont un cursus idéologiquement pro-nucléaire. Et les étudiants, après, le reproduisent quand ils deviennent ingénieurs.
Alors je crois que maintenant on va parler d'apiculteurs, d'abeilles et de la FNSEA.
Ça va être très court, ça va être
non, parce
court.
Que moi j'ai lu un communiqué de presse. J'ai lu leur communiqué de presse.
Oui, moi j'ai le même.
Tu as remarqué qu'il y a 4 fois le mot solidarité dedans.
Mais oui, alors
on contexte, va vous expliquer.
Voilà, le contexte est double. Le premier, les abeilles meurent en France et dans pas mal d'endroits dans le monde. Hein, y a une grosse baisse de la population d'abeilles, due essentiellement, maintenant les études l'ont bien montré, à l'impact des produits chimiques, style pesticides, herbicides, tout ça, qu'utilisent les agriculteurs productivistes, donc essentiellement la FNSEA et leurs amis. Donc la FNSEA est attaquée tout le temps sur ça. La FNSEA refuse de donner des consignes à ses agriculteurs pour leur faire abandonner les produits nocifs pour les abeilles. Hein. Donc, sur ce plan-là, ils sont coincés. Et on associe la mort des abeilles à la FNSEA. Et ils ont trouvé une astuce. Ils se sont dit, on va faire une campagne de solidarité avec les apiculteurs. Alors, ils peuvent pas faire sur la mortalité des abeilles, parce que c'est eux qui en sont en partie responsables, en tout cas idéologiquement responsables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont aider les apiculteurs sur les phases d'hiver, qui sont des phases difficiles pour les ruches, parce que les abeilles ne peuvent plus butiner, il y a plus de fleurs en hiver, donc elles ont plus de ressources d'énergie. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on leur fournit du sucre qu'elles transforment après, un sucre un peu spécial qu'elles transforment et dont elles se nourrissent en fait pour survivre. Et ce qu'a fait la FNSEA en lançant sa campagne de solidarité envers les apiculteurs, c'est ça, c'est de distribuer des sirops, enfin du sucre en sirop ou en bloc, ça se fait pas mal en bloc, pour que les apiculteurs mettent dans leur ruche pour passer l'hiver. Et c'est comment la FNSEA se donne bonne conscience. Ouais.
Alors surtout qu'on pourra surtout préciser que c'est à destination de ses adhérents apiculteurs et agriculteurs détenteurs de ruches, c'est-à-dire qu'ils nous font passer une solidarité syndicale. Hein, on vous rappelle que c'est un syndicat pour de la solidarité et de la lutte écolo et de la résistance. C'est ça moi qui me fait rigoler. C'est comment on arrive à, comme tu dis, à nous faire on est super, alors qu'en fait, bon, ils participent largement à la merdasse. Voilà, mais c'est rigolo quand même. Hein.
Et c'est marrant. Ils ont lancé ça à peu près un mois après que la Confédération paysanne ait lancé aussi une campagne de solidarité plus intelligente, bien évidemment, sur les apiculteurs, en participant notamment à différentes actions avec les apiculteurs. Donc voilà, ils sont très très forts, la FNSEA, pour faire de la propagande. Eux aussi, s'ils n'avaient pas leurs amis politiques, ça ferait longtemps et qu'ils auraient été obligés de changer de comportement, mais avec les appuis qu'ils peuvent avoir, ils continuent de polluer, de détruire la France et les rivières et nos petites abeilles. À savoir, petite info pour terminer aujourd'hui, que plus rien n'est naturel de nos jours. Quand vous mangez une pomme, une cerise, tout ça, la majorité de ce qui est produit et qui est vendu, notamment en grands magasins, ne sont plus pollinisés naturellement par des abeilles, mais artificiellement. Ce qu'on fait, c'est que les apiculteurs louent leurs ruches et ils installent les ruches près des arbres fruitiers dans les courtes périodes où il y a besoin de pollinisation, et après ils les baladent. Voilà, on a quand même beaucoup artificialisé la nature dans notre monde moderne. Et il est 19h56 à la plus rebelle des radios, dans notre belle pendule électrique, mais pas nucléaire, car nous ne sommes pas chez EDF. Et contrairement à ce qu'a dit Delphine, pour compléter ce qu'a dit Delphine tout à l'heure, je ne contredis pas, Radio Canu a choisi une banque qui ne fait pas de projets dans la houille, le charbon, les trucs qui détruisent l'environnement. Donc, maintenant que nous avons bonne conscience, nous allons pouvoir faire l'agenda. C'est pas mal, quand même.
Oui, c'était bien amené, donc.
L'agenda, j'ai juste un truc à dire sur l'agenda. C'est un rassemblement demain à 17h30 devant la direction départementale de la cohésion sociale. C'est 59 rue Chaponnet, dans le 3e arrondissement de Lyon, à l'appel de Jamais sans toi. La semaine dernière, il y avait une manif, le samedi, pour le logement pour tous et contre notamment le retour des expulsions, puisqu'on est sorti de l'hiver. Et la manif qui a mobilisé essentiellement des militants et quelques parents, hein, puisqu'il y a des écoles qui sont fer de lance un peu du combat, parce qu'ils ont des enfants SDF, ce qui est quand même difficilement acceptable, pas plus que pour les adultes, vous allez me dire, mais ça, en tout cas, ça mobilise plus et ça touche beaucoup plus. Et la mobilisation a été donc juste des militants et de quelques parents, ce qui n'était pas suffisant pour faire pression sur l'État. Donc ils essayent de remettre une couche en faisant ce rassemblement demain soir pour demander que le plan grand froid qui est donc arrêté continue, pour que les places pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas de toit, de domicile, restent ouvertes tout l'été, parce que l'été aussi on a besoin de dormir sous un toit, de se laver, d'avoir une vie à peu près décente. Voilà, rendez-vous demain soir 17h30, direction départementale de la cohésion sociale, 59 rue Chaponnet, dans le 3e arrondissement de Lyon. C'est tout ce que j'ai dans l'agenda.
Eh ben, on va vous laisser pour ce jeudi 9 avril. On vous rappelle toujours que Radio Canu cherche à finir son toit pour sa nouvelle maison que nous allons tous et toutes bientôt pouvoir acquérir. C'est comme ça. On n'a encore pas toute la maison qui est construite. Donc, tout ça pour vous rappeler qu'il y a
Elle est construite. Il manque l'argent.
Ouais, enfin, vous voyez, oh là là, c'est pour mettre un peu du cadre, rendre les trucs plus glamour que leur dire, ouais, salut, on cherche du pognon. Dit, t'as pas 2-3 francs? Ouais, c'est
non,
un peu
pas
ça.
Pas des francs, stop. On les prend pas, on prend des euros.
Bon, voilà, enfin, en tout cas, on vous rappelle que oui, on a toujours une campagne de dons en cours. Nos projets avancent bien et on vous remercie. Coucou à ceux et celles qui nous écoutent et nous soutiennent de Tarascon, par exemple. Non, mais parce qu'après, enfin, de partout, vous pouvez aller voir sur le site internet. On nous écoute de plein d'endroits de France, même de Belgique. C'est assez incroyable. On se croit, nous, toujours qu'on a une petite radio locale, mais non, c'est
une petite radio internationale.
Exactement, sans frontières. C'est voilà. Parfait. Ça nous va bien, nous.
Merci pour vos petits mots aussi, parce que ça nous fait plaisir.
Et ben voilà, on vous laisse peut-être pour ce soir.
Oui, puisqu'il nous reste 20 secondes avant 20h à la pendule, pas toujours précise, mais quand même très belle, de Radio Canu. Et tout de suite, c'est l'émission
La Petite Cuillère.
Bye bye.
Ciao.